Bonsoir. Donc nous vous remercions pour votre présence à l'occasion de cette conférence de Stéphanie Pahut autour de son ouvrage La normalité. Donc nous tenons également à remercier la librairie Mola qui nous a donné la possibilité d'organiser cette conférence dans ses salons. Ce sont donc Arnaud Alessandrin et moi qui allons modérer cette intervention. Donc Arnaud Alessandrin, qui est docteur en sociologie et chercheur associé au Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. Et moi, Hélène Crombet, qui suis docteur en sciences de l'information et de la communication, rattachée au laboratoire du MICA de l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, je vais commencer par présenter en quelques mots notre conférencière de ce soir, Stéphanie Pahut, ainsi que l'ouvrage qu'elle va évoquer juste après. Donc, Stéphanie Pahut, vous êtes linguiste, docteur ès lettres et maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Vous avez écrit, co-écrit ou co-dirigé un certain nombre d'ouvrages portant sur des représentations normatives, sur des imaginaires socio-discursifs, notamment genrés, tels que, donc je vais lire, « La place des femmes et des hommes dans la presse écrite généraliste de Suisse romande des années 80 à nos jours », en 2009, des variations publicitaires sur le genre, la même année, le petit traité de désobéissance féministe, en 2011, et donc, vous avez fait paraître La normalité en 2015 aux éditions de l'Âge d'homme, ouvrage donc qui a reçu le prix Ève de l'Académie romande l'année passée. Dans cet ouvrage, La normalité, vous faites donc naître un dialogue entre des voix issues d'horizons très variés, de Fernando Pessoa à Joyce McDougall, d'Émile Cioran à Gilles Deleuze, de Siri Hustvedt à Irving Hoffman, de Marianne Pavot à Stanley Cavell, pour ne citer qu'elles et eux, dans une approche donc qui est éminemment transversale et qui cherche à saisir donc des enjeux liés à la normalité et à l'anormalité. Ayant ainsi opté pour un tel titre, vous avez donc pris le parti de ne pas choisir entre les deux, entre anormalité ou normalité, dans la volonté de mettre en évidence toute la complexité inhérente aux normes et à leur élaboration au sein de l'appareil social, d'un appareil social. Vous cherchez ainsi à examiner et à déconstruire des mécanismes présidant à la fabrication de ces normes et vous analysez notamment, en les bousculant, certaines expressions et dénominations discursives dans une dimension linguistique en soulignant toute l'importance du langage qui structure nos imaginaires symboliques, nos représentations collectives, nos croyances. Donc, votre intervention s'inscrit dans le cadre du colloque Excentricité, enjeux et pouvoirs des anormalités en sciences humaines, qui se tient aujourd'hui et demain à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et donc, dans cette perspective, je vais vous laisser la parole donc pour exposer votre conférence intitulée « La normalité, normes, discours, identité » que nous allons avoir grand plaisir à écouter et qui nous permettra de problématiser des enjeux socio-discursifs liés à la dialectique entre normalité, étrangeté, identité et peut-être familiarité de l'anormalité.
Bonsoir, je vais commencer par remercier les organisatrices et auteurs du colloque. J'ai évidemment été ravie de découvrir qu'un colloque était organisé autour des excentricités, ravie de découvrir le sous-titre « Enjeux et pouvoir des anormalités ». J'aurais bien triché, changé le sous-titre tout de suite et puis marqué « Enjeux et pouvoir de l'anormalité » pour fusionner les deux directement. Et puis je suis très heureuse aussi de découvrir cette librairie dont j'avais entendu grand bien, même en Suisse, parce que sa réputation a vraisemblablement largement traversé les frontières. Je me suis dit ce soir que j'allais préparer quelque chose qui serait à géométrie variable, sinon je partirais dans quelque chose de normatif. Donc je vais adapter un peu en fonction de ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure comme conférence. Je crois que je vais vous raconter le pourquoi du projet qui va questionner la normalité académique aussi et puis les objets qu'on peut traiter comme les excentricités. Et puis je vous donnerai quelques définitions de la normalité pour lancer des pistes aussi et puis rapprocher ce terme d'autres termes comme excentricité, étrangeté et d'autres encore. Et puis je vous donnerai certainement un exemple autour des normes de genre parce que j'ai envie de vous parler d'un livre qui parle de ça aussi. Donc voilà, et puis je pense qu'il y aura des questions peut-être après. Je vais surtout soulever des questions, je crois. Le projet est parti d'une interrogation très égoïste et personnelle. Je me suis toujours dit que j'étais pas complètement normale, ça collait pas, je savais pas comment trouver une place, la place, la bonne place. J'ai toujours eu l'impression d'être plus à côté qu'au centre, un peu au bord. On m'a aussi souvent renvoyé cette image, alors de points de vue très différents. Donc on est tout de suite au cœur de la normalité, parce qu'il y a la question de la perception des autres aussi, donc il y a cette dimension de reconnaissance. Et puis j'ai toujours été attirée aussi par les formes de marginalité, par les excentricités, que ce soit des marginalités ou des excentricités ordinaires ou extraordinaires, que ce soit en littérature, dans le cinéma, la musique ou dans les gens que je rencontrais. Après, sans avoir plus jeune la capacité de définir ce que je mettais dans les marges ou dans les hors normalités. Me poser cette question m'a fait tout de suite me poser la question de ma place dans mes propres recherches à l'université, parce que je me suis dit, bon, partir d'une interrogation personnelle, je dois faire un travail académique universitaire, c'est pas très standard, donc j'ai pris le parti de me situer dans les recherches qui elles-mêmes sont situées, où il y a de la place pour le questionnement de la place des chercheurs et des chercheuses, donc ça c'est un aspect assez fondamental, et qui questionne justement la normalité académique, ou la normalité des objets académiques ou universitaires. Donc l'idée étant de placer la réflexivité au cœur de mes objets de recherche et au cœur de ce livre aussi. Alors, le linguiste Frédéric Lambert, lui, pose une hypothèse forte. Il dit que toute recherche est un autoportrait et une autobiographie, un temps passé avec soi-même où les relations de pouvoir et d'enfance ressurgissent avec plus ou moins de brutalité. Je ne serais pas aussi radicale, mais je m'inspire quand même de cette position. J'ai aussi envie de dire que la démarche est dans l'ordre de l'expérience plus que de la démonstration. Elle est analytique, évidemment. Mais là, je rejoindrai plutôt Foucault qui explique qu'il ne sait pas, avant d'avoir écrit le livre, exactement ce qu'il va écrire, de sorte que le livre le transforme et transforme ce qu'il pense. Et je le cite, « Chaque livre transforme ce que je pensais quand je terminais le livre précédent. Je suis un expérimentateur et non pas un théoricien. » Alors, je ne m'associe pas à Foucault, loin de là, ma posture est bien plus modeste. Par contre, je m'associe à cette posture d'expérimentatrice. Et puis, c'est quelque chose qu'on a entendu dans la conférence précédente aussi cet après-midi, dans une conférence sur la pratique du flamenco. Au-delà de cette sensation d'anormalité ou d'attrait pour le hors-norme ou les marges, j'ai aussi constaté, en fonction de mon intuition de personnes normalisées, ou j'ai envie de comparer ça avec l'intuition d'une locutrice native, mais mon intuition de personnes socialisées dans un certain type de cercle, j'ai constaté avec ma pratique d'analyste des discours que les normes étaient partout, mais bien plus que je ne l'imaginais sans regarder tout cela de très près, en travaillant sur les discours publicitaires, politiques, didactiques aussi, je me suis mise à voir le mot « normal » vraiment partout, ce qui a été cauchemardesque au début. Donc la normalité déjà est dans la bouche des enfants depuis tout petit, et on a l'habitude d'avoir des enfants autour de nous qui posent la question du pourquoi, le pourquoi des enfants s'est montré dans des approches sociologiques, mais quand l'enfant pose la question pourquoi, la réponse qu'il attend suppose de pouvoir conférer au phénomène interrogé une certaine normalité, une qualité qui le soustrait à l'étonnement et le dote d'une consistance. Je cite Leblanc ici, peut-être un tout petit détail, mais je donnerai volontiers une liste de références bibliographiques à la fin pour ceux qui sont intéressés. Comme ça, ça m'évite de citer chaque fois les dates, les années et les titres. Donc, les enfants sont d'emblée dans ces processus de socialisation, questionnent ces normes, parce que pour les enfants, rien n'est naturel automatiquement. Nous sommes tous traversés d'instances de socialisation, la famille, l'école, le travail. Donc, on est traversés par ces processus de normalisation. La socialisation est tissée de normes, d'un faisceau de normes, en instances perpétuelles de potentielle institutionnalisation. On intègre progressivement au travers de ces instances de socialisation ce que les groupes auxquels on appartient considèrent comme normal ou anormal. Et il est tout à fait possible de se reconnaître dans des ensembles normatifs différents, voire parfois antagonistes, ce qui peut nous faire percevoir des failles dans notre socialisation, voire même des sensations d'imposture ou de posture selon la définition que l'on peut donner. La normalité traverse aussi tous les discours adultes et puis se décline dans tous les genres littéraires, politiques, publicitaire. Un bon exemple français, c'est l'élection de François Hollande, qui a placé la normalité au centre des discours politiques, évidemment. Le président normal a donné naissance à l'éloge de la normalité, par exemple, de Mathieu Pigasse. La normalité suisse aussi a été mise en lumière l'année dernière. Lors du 19-30 de décembre 2015, Bernard Rapa, un de nos présentateurs qui est sur la chaîne nationale, s'est servi de la grille de la normalité pour commenter l'élection au Grand Conseil, au Conseil fédéral, d'un représentant de notre parti politique d'extrême droite. Je cite cet extrait. « On connaît la passion des Suisses pour l'équilibre, la modestie et de la normalité. Et on a envie de dire aujourd'hui que c'est le triomphe de cette normalité, à la fois un retour à la normalité du côté du système politique, puisqu'il y a désormais deux conseillers fédéraux UDC. Normal, au fond, c'est le plus grand parti de Suisse. Et puis l'élection d'un homme normal, non pas un consultant de taille mondiale, non pas un populiste qui dérange, mais un homme normal qui a su séduire. » Et au fond, cette élection ne va peut-être pas électriser les foules, mais elle est cohérente avec un système politique qui n'aime pas ce qui est hors norme, qui n'aime pas les têtes qui dépassent. Donc, j'ai interrogé ce journaliste à l'issue de cette écoute et je lui ai dit, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez placé 5 ou 6 fois le mot normal en une minute ? Et il n'avait pas du tout questionné ses propres représentations de la normalité, mais pour lui, c'était normal d'utiliser cet adjectif pour cette élection. On a eu aussi un exemple de notre actuel président de la Confédération suisse qui a donné une présentation dans le cadre d'une journée de l'innovation et qui a réussi à dire « c'est normal que normalement on n'aime pas les changements, mais sinon le travail des journalistes n'est pas si mauvais qu'on veut le dire ». Voilà, donc c'est normal que normalement, et c'est des énoncés qui sont extrêmement fréquents. Dans la presse, par exemple féminine, puisque je l'ai regardée d'un peu plus près, mais masculine aussi et généraliste, on parle de la normalité tout le temps. Philosophie Magazine a titré en une il y a quelques années « Et vous, vous êtes normal ?» Donc c'est des préoccupations qui reviennent assez systématiquement. On en trouve dans la littérature et la littérature de tout type sans porter aucun jugement. Mais par exemple, pour citer quelque chose qui est assez populaire, « L'amour dure 3 ans » de Frédéric Becbédé, on pourrait reformuler ça comme une fable sur l'amour normal. Si je cite un tout petit passage, « On se marie exactement comme on passe son bac ou son permis de conduire. C'est toujours le même moule dans lequel on veut se couler pour être normal, 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 en majuscule, à tout prix. À défaut d'être au-dessus de tout le monde, on veut être comme tout le monde par peur d'être en dessous. Et c'est le meilleur moyen de ruiner un amour véritable, etc. » Dans les codes vestimentaires, il est tout le temps question de normalité aussi. Au printemps 2014, on a vu apparaître le terme « normcore » pour signaler une tendance vestimentaire. Et puis, cela a nourri une vague d'investigations médiatiques sur l'hypernormativité et hypernormalité. Et puis, côté discours psychophilosophique et de vulgarisation également, on a eu quelques néologismes pour l'obsession du vivre normal, qui est désormais labellisé sous le néologisme normose, qui a succédé à celui de normopathie, qui a été fondé par une psychanalyste. Bref, je pourrais multiplier les exemples. En prenant l'avion, j'ai consulté le magazine Air France, je me suis dit qu'il y avait quelques publicités à arracher. Quelle ne fut pas ma surprise quand je découvre l'édito. S'évader des périmètres, chahuter les curseurs, enjamber les clôtures, détricoter les contours, vivre un pas toujours de côté et puis regarder l'heure d'ailleurs en oubliant ses tours de garde et se dire qu'il n'y a pas plus beau que cette liberté. Et puis j'avance un tout petit bout et il y a tout un papier sur le hors-cadre. Donc je me suis dit, c'est bien d'arriver pas loin de cette conférence et puis d'être dans le cœur du sujet. On peut se demander pourquoi maintenant, ce début du XXIe siècle, la normalité semble à son apogée. La question a été traitée par passablement de philosophes contemporains. Il y a une sorte d'opposition entre l'hyper-individualité et la normalité, mais on peut montrer assez facilement que plus l'individu a de liberté ou d'autonomie, plus il va lui-même se refabriquer des normes par peur. C'est très simplifié, mais on peut aller lire par exemple Blé, Gaucher et Otavie qui observent que ces modes de vie se matérialisent discursivement, circulent et s'imposent massivement dans les imaginaires au travers des réseaux et des médias et que plus l'individu est délesté des normes de conduite extra-déterminées ou transmises par la tradition, plus il est sensible aux propositions qui viennent de son environnement. Donc on peut expliquer ce paradoxe et ce pic de normalité actuel. Donc, dans les très grandes lignes, mon projet rejoint complètement le projet du colloque, enfin, quand j'ai lu les intentions du colloque, mettre en question le monde actuel à l'aune de la notion d'excentricité et puis donner une place à des formes décentrées, à des phénomènes subversifs d'étrangeté, à des pratiques qui s'adonnent au décalage au second degré. C'était aussi un peu mon idée avec ce livre. Après, le problème, c'est que là, je partais d'une situation personnelle, d'une interrogation assez égocentrée et puis d'intuition, et j'avais des outils linguistiques. Il a fallu rassembler tout ça et transformer ces constats, intuitions et mauvaise humeur aussi, parce que ça m'énervait qu'il y ait de la normalité partout, en données observables et en un objet de recherche que je pouvais traiter dans les limites d'un livre ou éventuellement de conférences. Donc j'ai fait mon travail de linguiste, j'ai dû décider de ce qui était significatif ou pas, ce qui n'a pas été simple. Pourquoi ? Première chose, c'est comment décider ce qui rentre dans la normalité ou dans l'anormalité et comment créer un corpus ? Comment créer un ensemble de données cohérentes ? Parce que là, ça partait dans tous les sens. Entre les données littéraires, publicitaires, politiques, au début, j'ai collectionné, rempli des cartons, mais je ne pouvais pas faire un livre en remplissant des cartons, ça ne marchait pas comme ça. Donc j'ai dû me poser la question de la définition des normes. Et là, ça a été une longue traversée de toute la littérature dans tous les domaines, parce que tous les domaines parlent des normes, que ce soit médecine, philo, socio, psycho, et chacun y va de sa définition qui n'est pas forcément compatible avec l'autre. Donc il a fallu faire des choix, et puis décider que je retiendrai quelques paramètres seulement. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu pour fonctionner et trouver une approche discursive des normes ? Globalement, j'ai décidé déjà d'assumer une démarche qui était plutôt butineuse et de décloisonnement. Donc l'envie de décloisonner les genres, les catégories, les institutions comme mise en œuvre d'un outil de résistance. Donc j'ai décidé d'assumer de mélanger des voix ordinaires, des voix académiques, ma voix plutôt personnel et puis une voix d'analyse de discours. Donc j'ai décidé de créer un objet polyphonique qui me semblait correspondre à un fait social total qui est lui aussi polyphonique. Alors, est-ce que j'ai fait un livre excentrique ? Je me suis intéressée à la définition de l'excentricité, j'ai voulu remonter à l'origine du terme. Donc vraisemblablement, le terme a été emprunté au vocabulaire astronomique, plutôt vient du latin médiéval excentricus, hors du centre. Le terme a été attesté au XIIe siècle. Ce n'est que plus tard, vers le XIXe siècle, qu'il a pris une valeur morale et qu'on a considérer que l'excentricité s'associait au non-conformisme. Et puis j'ai trouvé une définition intéressante chez Nodier qui dit « J'entends par un livre excentrique un livre qui est fait hors de toutes les règles communes de la composition et du style et dont il est impossible ou très difficile de deviner le but quand il arrivait par hasard que l'auteur eut un but en l'écrivant. » Ça, c'est une citation de 1835. Donc mon livre n'est pas si excentrique que ça. J'ai quand même expliqué mon but. J'ai suivi une démarche épistémologique et théorique. J'ai justifié des choses. Donc, la notion d'excentricité est à discuter. Donc, comme je vous disais, j'ai fait le tour des définitions de la normalité. J'ai essayé d'en retenir les points principaux. Ce que j'ai retenu d'abord, c'est que la saisie du phénomène normatif est prise entre trois points de vue, descriptif, prescriptif et puis perceptif. Donc on a toujours la norme au sens quantitatif, ce qui est normal, ce qui est régulier, le plus représenté dans un groupe ou dans une société. Et puis on a le normal, ce qui est comme il faut, comme on doit. Donc là, on est dans l'aspect prescriptif. Et puis il y a l'aspect perceptif, c'est la reconnaissance de cette normalité ou anormalité, donc qui se fait dans la reconnaissance et il faut le regard d'autrui. Donc dès qu'on aborde la question des normes, quel que soit l'angle, on se retrouve avec ces trois points de vue, descriptif, prescriptif et perceptif. Quand Guilhem, qui a beaucoup parlé des normes, est arrivé à une conclusion qui m'a beaucoup parlé, il a souligné la nécessité de réduire la signification du concept en fonction des positionnements théoriques et épistémologiques. Je cite Quand Guilhem, « Tous ceux qui ont visé comme moi la fixation du sens du concept de normal ont éprouvé le même embarras et n'ont pas eu d'autres ressources face à la polysémie du terme que de fixer par décision le sens qui leur paraissait le plus adéquat au projet théorique ou pratique qui appelait une délimitation sémantique. » Cela revient à dire que ceux-là même qui ont cherché avec le plus de rigueur à ne donner au normal que la valeur d'un fait ont simplement valorisé le fait de leur besoin d'une signification limitée. J'ai triché encore plus que ça, j'ai pris le parti du néologisme. Donc, première chose que j'ai retenue dans toutes les définitions que j'ai lues, c'est que normalité et anormalité sont les deux faces indissociables d'une même pièce de notre complexe engrenage identitaire. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Première chose. Deuxième aspect, la normalité est un processus. Donc, j'ai pris le parti d'une approche dynamique de la société et d'une inter-influence des réseaux normatifs. Et à partir de là, j'étais ennuyée parce que j'ai voulu titrer mon projet ou mes réflexions. Alors, j'avais des choses assez mauvaises comme A-normal, qui ne donnait rien, ni graphiquement, ni dans ma tête, parce que c'était quand même coupé. Après, j'ai fait pire, j'ai mis normal, point d'interrogation. Ça appelait tout de suite le côté prescriptif et normatif, c'était très raté. Donc, j'ai fait appel à un ami artiste qui fait des choses étranges, des tampons, qui travaille avec toutes sortes de matières. Et puis, je lui ai raconté mon problème, il a dit « Ah, mais c'est très simple ». Ok. Et il a dit, on crée le mot, la normalité, on l'écrit en majuscule, en un mot. Il y a la dimension processuelle. À l'oral, on ne peut pas savoir, parce que quand je dis la normalité, vous n'entendez pas si c'est l'un ou si c'est l'autre. Donc il y a cette indissociabilité. Et puis Anthony Banvart, qui est l'artiste qui a donc créé ce néologisme, fait des tampons qu'il plaque sur les peaux et sur ses œuvres d'art. Donc on a décidé que la normalité sera un tampon aussi qu'on peut plaquer sur sa peau. Donc l'objet existe vraiment. L'idée étant que les normes nous traversent, donc une incorporation aussi de ces discours des normes. Donc après, on a transformé un peu le projet en livre performance et cette idée de mettre le corps aussi au centre de la réflexion. Donc ça, c'est les deux. Premier point, normalité et anormalité sont les deux faces indissociables d'une même pièce de notre engrenage identitaire. La normalité est un processus, d'où le choix du titre. Et puis, troisième chose qui est fondamentale pour moi, parce que sinon je ne pouvais pas empoigner l'objet, parce que je ne suis ni sociologue, ni psychologue, ni historienne, mais je suis linguiste, donc la normalité circule discursivement. C'est vraiment le point fondamental pour moi. Donc la norme, pour advenir, pour être visible ou lisible ou incorporée, a besoin d'une reconnaissance, d'une dimension d'appréciation, mais aussi d'une énonciation, donc d'une explicitation. Donc je pourrais citer Marianne Pavot qui cite évidemment Foucault avec l'ordre du discours, mais je ne vais pas faire quelque chose de très théorique ici. Je vais par contre citer Jean-Michel Adam, linguiste aussi lausannois d'adoption, qui résume « En tant que chercheur spécialiste d'un domaine des sciences humaines et sociales, je dirais que mon métier est de décoder la complexité des agencements socioculturels oppressifs, produits des idéologies dont les normes sont l'expression. Enseigner la vigilance envers les discours normatifs, quels qu'ils soient, est certainement la raison même de mon travail. » Donc j'adhère pleinement à cette opinion-là. Donc mon idée étant de pratiquer une linguistique critique ou engagée et d'aller analyser les réseaux de normes et de procéder à un processus de désévidentialisation, d'aller voir partout où se trouvent les normes et surtout tous les endroits où elles ne sont pas dites et où l'on essaye de faire passer pour naturel des éléments qui sont en fait socio-culturels. Donc je me suis mise à analyser, à partir du moment où j'ai trouvé cet angle-là, je me suis dit que j'analyserais des fictions normatives. Donc sachant que c'est par la mise en forme textuelle du sens que le monde prend sens et que nous nommons perpétuellement ce qui nous entoure, je me suis mise à m'intéresser à nos catégorisations du monde, lesquelles sont arbitraires et relatives, aux univers de croyances dans lesquels nous évoluons et non pas naturels et innés et universels. Donc à partir de là, il m'a fallu des outils de décodage de cette normalisation perpétuelle qu'on peut trouver dans les discours. Donc dans une perspective linguistique, on pourrait se concentrer sur ce que Klinkenberg appelle la rhétorique des normes, et puis ça permet d'aller chercher vraiment dans la matérialité textuelle des éléments de circulation des normes. Alors Kelsen, qui est le fondateur de la pyramide des normes, une vision hiérarchique des normes mais en droit juridique, note dans sa théorie générale des normes que l'expression linguistique d'une norme peut apparaître sous plusieurs formes grammaticales. Il cite l'impératif, les propositions normatives du type du cinquième commandement, tu dois honorer ton père et ta mère, et il cite aussi les propositions d'existence, les énoncés de vérité générale, le vol est puni d'une peine de prison. C'est l'exemple qui est donné. Évidemment, il y a de bien plus nombreuses modalités qui concourent au soutien de la normalisation de catégorisation. Et la plus directe est incontestablement l'utilisation du lexème norme. Donc j'ai fait tout un travail sur l'utilisation du terme norme. C'est ce qui m'a permis de revenir sur le cas de Hollande et le président normal. Évidemment, il y a toute une analyse des imaginaires sous-jacents à faire. Mais il y a aussi les adjectifs « bon » et « vrai » qui révèlent ou recèlent systématiquement des normes. Donc je vais vous donner l'exemple ici assez rapidement de ma manière de déconstruire les normes de genre en passant par l'analyse de l'adjectif vrai. C'est une entrée possible, mais je pars du principe qu'à chaque fois qu'on parle des vrais hommes et des vraies femmes, il y a des normes sous-jacentes et qu'il est possible de les reconstruire en passant par l'analyse de cet adjectif. Les normes de genre, donc, on peut les définir assez simplement comme l'ensemble des conduites, attributs et attitudes associées au concept de féminin et de masculin dans une culture donnée. Être un homme ou une femme suppose de produire des conduites, attitudes, caractéristiques considérées comme congruentes à son sexe. Rien que dans ces définitions-là, on voit déjà un premier problème, c'est la binarité homme-femme, qui est évidemment largement déconstruite aujourd'hui. Si on travaille sur les étiquettes vraie femme ou vrai homme, elles sont les matérialisations lexicales les plus explicites de l'anormalité de genre ou de sexe ou de la sexualité. On y amalgame des normes qui régulent le corps, la sexualité, l'amour, les compétences, le caractère ou encore la maternité, la paternité, et puis on pourrait largement allonger la liste. Ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse ces étiquettes vrai homme ou vraie femme, on voit que les vrais hommes et les vraies femmes ne sont jamais les mêmes d'un imaginaire à l'autre, d'un support à l'autre, donc on déconstruit très vite cette idée de naturalité. Et puis on voit aussi qu'elle trahissent ou traduisent des imaginaires particuliers. Je vous donne quelques exemples. Dans l'imaginaire de Nelly Arcand, les vraies femmes sont les autres, celles du monde, dont le corps est encore ce qu'il doit être et non celui de la putain qu'elle est. Je cite un tout petit bout. « J'ai deux ou trois copines avec qui je tente de concilier ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe ici dans cet appartement qui s'ouvre sur le cœur anglais de Montréal. Ce sont d'ailleurs de jeunes putains comme moi. Il faut dire que je ne discute plus avec les autres femmes, les vraies, les femmes du monde. » Dans un autre roman écrit par une femme, Claire Castillon, je cite un autre passage, « Je fais bien la différence entre les vraies filles et les garçons manqués. » Ou alors, dans un autre de ses livres, « Être une vraie femme raffolant des bijoux, des froufrous dépassant des chemisiers et de son métier. » La publicité regorge d'exemples de vraies femmes et de vrais hommes. Une annonce d'Ehou pour une voiture qui s'appelle, enfin la catégorie de la voiture s'appelle Matisse Makeup, sous-titrée pour les femmes, les vraies, donc sous-entendu celles qui se maquillent et prennent soin de leurs apparences. Une autre annonce a passablement fait parler il y a quelques années, Dove. Même chose, la marque a voulu se démarquer précisément en s'adressant aux vraies femmes et la mise en opposition était intéressante parce que sur les annonces on voyait l'opposition avec les super mannequins. Donc il y avait cette idée d'artificialité. Alors évidemment, ce qui fait sourire quand on regarde les pubs Dove, c'est que toutes les photos sont retouchées et qu'alors qu'on nous dit qu'on s'adresse aux vraies femmes, c'est un produit minceur qu'on nous vend quand même. Donc les paradoxes sont internes à la campagne. Donc pour résumer ce qu'on peut dire des vrais hommes ou des vraies femmes, je citerai Marianne Pavot et puis une sorte de coup de gueule, je crois qu'il y a des considérations académiques, mais elle le formule aussi de façon, enfin avec un peu de mauvaise humeur. L'expression « vraie femme » m'évoque exactement ce que m'évoquent d'autres expressions en vrai, plus quelque chose que je collectionne d'ailleurs, avec l'idée de faire un article un jour. Je pense à des choses comme « vraie littérature », « vraie linguiste », « vrai fromage » ou « vraie bretonne », « vrai couple » ou même « vrai con ». Ça m'inspire un mélange d'amusement et de lassitude devant l'idée que les normes sont dotées d'une vérité vérifiable et que tout écart condamne à la fausseté, l'inauthenticité, la facticité. Une vraie femme, ce serait en effet une femme qui répondrait aux critères de la féminité telle qu'elle est élaborée par les normes sociales soucieuses de conservation d'elle-même. Je n'ose même pas imaginer à quoi elle ressemblerait. Moi non plus. Donc on en arrive à l'idée, quand on constate tout ça, que les normes sont partout et on semble assez rapidement enfermé dans toutes ces normes. Alors c'est le dernier aspect, puis je vais vraiment le faire très vite, en 3 minutes. Ce sera une manière de conclure et ouvrir. Une fois qu'on a constaté qu'on vivait dans les normes, une fois qu'on a constaté qu'elles étaient partout, que les définitions étaient multiples, que les problématiques se recoupaient, on se demande quand même si on ne peut pas agir. Et c'est un peu l'esprit du colloque, il me semble, mais c'est faire quelque chose avec ça. Alors, faire disparaître les stéréotypes, on ne peut pas. Les stéréotypes font partie du processus même de socialisation, donc ce serait une aberration. Remplacer les stéréotypes par d'autres stéréotypes, ça peut être très amusant et très créatif, mais on ne s'en sort pas non plus. Donc, mon hypothèse est qu'on peut changer non pas les stéréotypes, mais notre rapport aux stéréotypes et aller vers une renormalisation créative, à savoir désévidentialiser les normes, déjà prendre conscience dans une attitude réflexive des normes qui nous entourent, puis décider de se les réapproprier ou pas. Donc il n'est pas question de sortir, d'aller s'isoler sur une île déserte et de fonctionner en dehors des normes, ça aussi c'est une utopie, mais qui peut être traitée par des artistes de manière très créative et très nourrissante. Mais il s'agit vraiment d'avoir un changement de rapport aux normes et de réappropriation, de réinvestissement créatif des normes. Donc, l'idée étant aussi d'intégrer une conception multidimensionnelle de l'identité. Et là, j'aime beaucoup citer Lévi Strauss qui dit « En se déplaçant dans son cadre, l'homme transporte avec soi toutes les positions qu'il a déjà occupées, toutes celles qu'il occupera. Il est simultanément partout, il est une foule qui avance de front, récapitulant à chaque instant une totalité d'étapes, car nous vivons dans plusieurs mondes. » Et on trouve cette idée d'homme-foule dans de nombreux écrits, dans la poésie aussi, chez Michaud, par exemple. Donc la perspective de ce livre, mais de ce que je peux faire par ailleurs aussi, c'est de sortir d'une assimilation passive des normes, parce que souvent la voix collective finit par prendre le timbre de notre propre voix, et on a l'impression, les normes sont si incorporées qu'on n'a plus cette distance réflexive, et puis d'aller vers une excentricité libérante. Le terme n'est pas de moi, il est de Gautier, mais moi je parlerais plutôt d'autonomisation libérante. Mais excentricité libérante est un concept qui me parlait beaucoup. Donc l'idée est de sortir du « c'est comme ça », de retrouver de la place pour la créativité, entendue comme une forme de connexion, et puis saisir cette occasion de se désidentifier aussi et de faire un retour sur sa propre socialisation. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'imagine que je dois avoir atteint une petite demi-heure et qu'il y aura des questions. Gentil, paraît-il.
Merci beaucoup pour cette synthèse d'un livre qu'on vous invite à découvrir. Il faut cheminer dans ce livre. Hein. Ce n'est pas un livre classique, au sens peut-être moins de son objet que de sa forme. Hein. Et ça rend en soi le livre excentrique. Il y a plein de choses qui ont été dites. Alors, ce que je propose, c'est peut-être de lancer des pistes, hein, et puis de voir où est-ce que ça rebondit dans ce que vous venez de dire. Alors, votre point de départ, c'est un point de départ classique dans la recherche, dans le journalisme, dans les arts. Cette recherche, au fond, d'une hypothétique bonne définition d'un mot qui nous échappe d'emblée, et vous l'avez dit, si on devait faire la liste des définitions sur la normalité, est-ce qu'il s'agirait de parler d'un équilibre, d'une évidence, pour le dire comme Weber, d'un éternel hier, c'est-à-dire d'une répétition à l'identique? Est-ce que, pour les statisticiens, il s'agit d'une moyenne, d'une règle, d'une habitude? On voit bien qu'à chaque fois qu'on essaie de poser un mot, une définition, eh bien, ce mot d'anormalité nous échappe, hein, à l'image d'une savonnette éternellement saisie et puis déjà plus là. Alors, cette question qui est une question, je crois, honnête, hein, que d'avouer le fait qu'on ne puisse pas toujours définir clairement les mots qu'on utilise, fait particulièrement écho au travail du sociologue, puisque vous employez le terme de socialisation, et le paradoxe de la socialisation, c'est que la socialisation normalise en même temps qu'elle autorise un déplacement. Et on l'a vu tout à l'heure dans le colloque excentricité, sur l'exemple du flamenco ou du bouffon rituel, encore faut-il avoir appris les codes pour les dépasser. Et donc, assez paradoxalement, hein, c'est celle ou celui qui apprend très bien les codes qui les dépasse le mieux, hein, dans cette sorte de paradoxe. Alors, j'entends aussi, mais peut-être est-ce là un point de débat, que la question de la normalité est aujourd'hui, sous une forme un peu paroxystique, répétée sans cesse, peut-être aussi du fait du coût social de la transgression. Et on voit que dans les subjectivités contemporaines, les mots tels que discrimination, tels que déviance, tels que, là encore, anormalité, c'est-à-dire dépassement d'une norme, revêtent en termes de coût social, mais aussi de coût physique. Et c'est ce sur quoi j'aimerais revenir, puisque quand vous parlez de la question du genre, force est de constater que la maltraitance théorique, pour le dire comme Françoise Cironi, ou, en des mots qui vous sont peut-être plus familiers, la maltraitance nominale, se transforme bien souvent en maltraitance clinique. Ce sont de mauvaises théories cliniques qui aboutissent, par exemple, à une classification, je rebondis sur ce que vous venez de dire, en termes de vrai ou de faux hermaphrodite. de vrai ou de faux transsexuel, c'est-à-dire à une déclinaison diagnostique à l'infini, et l'on voit bien que c'est des mauvais mots, que des coules, des mauvaises pratiques. Il y a eu, au fond, deux mouvements qui se sont joints à cette volonté de déconstruction que vous appelez de vos voeux, et heureusement, vous n'êtes pas la seule, et heureusement, ça a une efficacité, sinon on aurait baissé les bras depuis bien longtemps. Le premier mouvement, c'est celui de la créativité. Et on le voit dès votre titre, avec cette création du terme, qui me fait penser à ce que Prochoris avait fait avec son terme « La différence des sexes, tout attaché, sans espace », Sabine Prochoris, qui avait souhaité comme ça rendre au fond ridicule ce concept de différence des sexes, puisqu'elle-même avait tenté de définir ce qu'était la différence des sexes sans jamais être parvenue réellement à la définir. Et puis, il y a un second passage que vous esquissez. J'aurais aimé savoir jusqu'où vous pensez qu'on peut aller dans ce passage de la déconstruction des normes, et en l'occurrence ici des normes de genre que vous avez définies très clairement et à laquelle je souscris. Vous proposez un passage d'un travail sur les stéréotypes dont on a pu voir, c'est vrai, l'hypo-efficacité. Si le travail sur les stéréotypes avait une efficacité sociale, je pense que les mouvements féministes depuis un certain nombre d'années auraient provoquer des changements beaucoup plus radicaux dans la société, même si il s'agit de ne pas sous-estimer les changements sérieux, profonds que ces mouvements ont procuré. Vous proposez donc un glissement d'un travail sur les stéréotypes, un glissement vers des propositions en termes de contre-stéréotypes, c'est-à-dire une ouverture de l'offre en termes de vocabulaire et de représentation. Mais vous nous dites que ça ne suffit pas. Le registre du stéréotype et du contre-stéréotype, il peut être efficace, il a sûrement une efficacité, mais il ne suffit pas. Il s'agit de travailler ce qui, socialement, fait ce stéréotype ou fait sens dans ce stéréotype, voire même dans les contre-stéréotypes qui sont proposés. Et donc, en travaillant, vous n'avez pas dit le mot, mais peut-être est-ce celui-ci, sur les préjugés. Sur les préjugés. Et je m'interroge sur un dernier glissement. Est-ce que, c'est une proposition que je vous fais, est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Est-ce que travailler aussi sur les préjugés, c'est suffisant et c'est satisfaisant. Est-ce que, quelque part, il ne faudrait pas travailler aussi sur les discriminations, c'est-à-dire, paradoxalement, à travers une nouvelle forme de norme, qui est la norme juridique ? Et on voit s'élargir les revendications en termes de reconnaissance des discriminations, notamment aujourd'hui en termes de vulnérabilité, et notamment de vulnérabilité langagière. Alors on n'est pas encore sur la discrimination faite par les mots, mais on est par exemple sur la discrimination faite par l'accent. Peut-être connaissez-vous le terme de glottophobie qui vient aujourd'hui d'être sacralisé en droit, une discrimination du fait du type de prononciation. Est-ce que vous iriez jusqu'au bout de cette démarche que je propose, ou est-ce que vous considérez, et j'entends peut-être déjà votre réponse, que travailler contre les stéréotypes, notamment de genre, et travailler contre cette normalité étouffante, cette injonction à la normalité étouffante, passe par la lutte contre les discriminations, ou est-ce que vous considérez que déjà, travailler sur les discriminations, c'est mobiliser de nouvelles normes et qu'on se mord la queue ?
Alors, déjà, merci pour l'intervention. Je suis en empathie avec ce que vous venez de dire, donc il n'y a pas de conflit, en tout cas d'intérêt, de forme d'engagement, et ça nourrit plus que, enfin, mais c'est un résumé aussi, une synthèse vraiment stimulante. Après, je ne peux pas pouvoir réagir à tout, mais j'ai attrapé des mots clés et puis je synthétise un peu ce qui m'est venu en vous écoutant. Mais pour les premières remarques sur les définitions des normes, enfin, je sais que quelque chose qu'on m'a reproché, c'est de ne pas donner une définition de la norme. Mon idée était que des étudiants puissent travailler avec ce livre et en trouver une. Il y en a quand même une. Déjà, je dis que ce n'est pas la norme, mais les normes, qu'on ne peut utiliser le terme qu'au pluriel, et puis que ça fait partie, enfin, que ce serait un faisceau de processus d'accommodation sociale. Enfin bref, donc il y a quand même une définition, mais qui est évidemment plus une définition linguistique. Et puis je cite toutes les autres pour rendre à César toutes les autres acceptions possibles. Après, pour ce qui est du mode d'action, c'est un peu de ça dont il est question quand même. Je pense qu'il n'y a pas de dissociation entre discours et acte. Enfin, je suis plus pour défendre une conception incorporée des discours. Donc je m'explique un peu. Déjà, je ne parlerai pas de déconstruction des imaginaires. Je l'ai fait pendant longtemps. J'ai souvent dit, enfin jusqu'à il y a quelques années, déconstruire les discours, déconstruire les imaginaires, déconstruire les stéréotypes. Et en fait, je suis revenue de ce terme et on ne déconstruit rien. Enfin, pour moi, ça ne sonne plus juste. Par contre, déstabiliser, bousculer. Mais je ne pense pas qu'on puisse déconstruire. Les choses sont construites, on les analyse. Par contre, on peut déstabiliser. Le terme me convient beaucoup mieux désormais. Et quand je dis qu'il faut désévidentialiser, le mot n'est pas très joli, mais c'est faire en sorte qu'on ne prenne plus pour naturel des éléments, des catégories qui sont construites et qui partent de points de vue. Donc il faut resituer. Et pour moi, ça, c'est l'équivalent exact d'une repolitisation des discours, dans le sens le plus brut, le plus charnu du mot politique. Donc pour moi, quand on travaille sur la déstabilisation des discours normatifs, on a un engagement qui est politique. C'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à distinguer les recherches académiques et puis l'engagement. D'où mon attrait pour les recherches situées, engagées, même militantes, et pour une forme d'incorporation des discours, donc des recherches performances. Donc moi, je vois pas le... Enfin, je pense que c'est toujours intéressant de montrer les stéréotypes, mais après, je crois que ça doit se faire dans des espaces différents. Pour moi, c'est fondamental de trouver tous les outils qui permettent de développer la réflexivité. Pour moi, travailler sur les stéréotypes, le but ne doit pas être de montrer les stéréotypes, de redire que dans la pub, on a X femmes montrées de telle manière. Je crois qu'on en a fait le tour. Par contre, le but pour moi, c'est de piquer la réflexivité, notamment des jeunes et des enfants, de travailler sur toutes sortes de populations. Donc, de plus mettre l'objet sur la volonté de montrer les figures de la femme dans la publicité, parce que là, je pense qu'on fait pire que... Enfin, je pense que c'est pas bien, vraiment. Mais par contre, de donner des outils d'élucidation des imaginaires, de prise de conscience des imaginaires. Et à partir de là, on peut changer ce rapport aux imaginaires, ce rapport aux normes, et donner des outils. Alors après, ben, tout dépend, on m'a travaillé sur les stigmatisations, c'est la même chose, on m'a reproché souvent, en travaillant sur la publicité, de reproduire les publicités, de les montrer. On m'a dit, mais alors tu fais recirculer toutes ces images, quelle horreur, on les envoie encore plus qu'avant. Et moi je pense que ça c'est un tort, je pense qu'on donne des outils de lecture, mais que par contre on doit donner à la fois nos objets d'analyse, nos données, les processus qui nous permettent de les analyser, les résultats, mais de surtout communiquer les outils et de montrer les implications pratiques et notre propre point de vue. Je pense que c'est la dernière chose qui me tenait à cœur d'aborder, c'est que comme on est nous-mêmes socialisés et pris dans des faisceaux de normes, il y a plein de choses qu'on présente comme étranges ou extravagantes, mais simplement parce qu'on a incorporé certaines normes. Et un linguiste parle de surdité normative, et je suis assez sensible à ça. Je sais très bien qu'il y a un choix arbitraire qui m'a fait élire certaines personnes plutôt que d'autres, certains linguistes plutôt que d'autres, certaines lectures. Et j'ai bien conscience que ces choix viennent des normes que j'ai incorporées depuis mon enfance et dans tous les cercles de socialisation que j'ai traversés. Alors je ne peux pas me désocialiser maintenant. Par contre, je peux avoir l'honnêteté de dire la partialité et la partialité aussi des choix que je fais.
Est-ce qu'on m'autoriserait, et là, une seconde question? Car si l'idée, c'est de contrarier les normes, qu'en est-il de cette proposition qui a été de nombreuses fois faite, parfois d'ailleurs avec succès, réalisée avec succès, d'une écriture dégenrée ou d'une écriture non-genrée, d'une écriture queer? Est-ce que ça vous semble une piste intéressante, peut-être moins normalisante que le droit, plus créatrice aussi? Est-ce que c'est vers ça que vous nous suggérez d'aller, par exemple?
Alors, pour le... ben ça, j'ai pris position plusieurs fois, mais j'ai dû dire une fois, en raccourcissant ma pensée, que j'avais horreur de la féminisation systématique des noms de métiers, par exemple. Et puis, beaucoup de féministes... sont tombés sur cette intervention en disant « Mais quel scandale, tu ne féminises pas dans tes textes !» Je dis « Non, pas toujours, ça dépend. » Et à partir de là, j'ai construit une réflexion un peu plus étayée quand même, mais je pense que, enfin je pense pas, ça c'est un fait, la langue est suffisamment souple et plastique et vivante pour accueillir des formes. différentes pour accueillir des espaces d'expression, des singularités. Ce qui me dérange dans tout ce qui relève d'imposition de nouvelles normes en matière de féminisation, par exemple, c'est qu'on retombe souvent dans la binarité. Et là, j'ai une très grosse opposition à tout ce qui remet de la binarité ou qui refiche des binarités. Donc, moi, j'aime bien, par exemple, les tentatives de Monique Wittig qui déconstruit la langue. Alors, elle en fait quelque chose de plutôt poétique. On ne peut pas tous faire ça avec la langue. Par contre, il y a assez de plasticité pour pouvoir se dire, même un jour au féminin, un jour au masculin, se dire... au féminin, donc là je parle des formes grammaticales, hein, ça n'a rien à voir, il y a tout ce phénomène de sexu-issemblance qu'il faudrait déconstruire, mais je pense que la langue est assez plastique pour pouvoir se dire selon les moments, selon des formats différents. Après, évidemment qu'on communique avec autrui et qu'il faut que les codes soient suffisamment clairs pour permettre une intercompréhension. Donc il n'est pas question non plus de tomber dans la fiction de chacun créer sa langue dans la langue qui n'est plus compréhensible par les autres. Par contre, je pense qu'on peut trouver des moyens d'exprimer sa voix dans la langue. Puis là, c'est plutôt la perspective cavalienne, perfectionnisme moral, de trouver des moyens d'expression de sa voix dans la matérialité langagière, puis pour moi, au sens le plus large du terme, à la fois corporelle et discursive. Donc pour moi, c'est le même travail qu'il faut faire sur le corps. Je pense qu'on peut aussi considérer le corps comme une langue et puis fonctionner de la même manière. Donc pour moi, il s'agirait vraiment, oui, d'avoir une écriture désobéissante ou déstabilisante.
Moi, ce qui m'intéressait, donc là, je reviens dans le cadre du colloque excentricité, et c'est vrai qu'on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure de manière un peu informelle. En fait, la question que je me pose, c'est donc par rapport au terme d'excentricité, est-ce que finalement l'excentricité est véritablement en opposition avec ce qui est de l'ordre du commun, de l'ordinaire, du banal, du familier? Et c'est une question que je pose, c'est finalement, est-ce que l'excentricité ne serait pas révélatrice de notre plus intime humanité? La question que je me pose, c'est, je me suis demandé si éventuellement la normalité en un seul mot, n'entrait pas également dans cette perspective, et en quoi éventuellement, mais c'est peut-être une question, comment distinguer la normalité de l'excentricité? C'est peut-être une question...
Il y a quelque chose qui est assez amusant à faire quand on est linguiste, c'est prendre un bon dictionnaire des synonymes et puis chercher normal et anormal, et puis à l'intérieur des définitions de anormal, on trouve excentrique. Donc il y a des définitions. Après, je pense qu'il faut réfléchir par... Là, c'est une réflexion vraiment épistémologique et théorique, et on ne peut pas tout comparer. Là aussi, il faudrait vraiment donner des points de vue. Mais globalement, on peut considérer que les excentricités sont des anormalités, qu'elles sortent d'une certaine forme de régularité. La régularité serait peut-être le point commun, enfin le noyau qui nous permet de réfléchir à tout ça. Mais après, c'est des connotations qui sont différentes. L'excentricité va être connotée davantage positivement, va être conçue comme quelque chose qui permet de sortir ou d'émerger ou d'exprimer une singularité. Et puis l'anormalité, elle, va plutôt être utilisée dans des cadres de pensée plutôt négative, avec une connotation sortir de la norme, mais dans quelque chose qui mettrait en danger. Mais là aussi, ce sera un point commun, il y aurait une mise en danger des deux côtés, du côté des anormalités, des excentricités, mais du côté des excentricités, ce serait une mise en danger créative ou créatrice et libératrice, alors que l'anormalité serait une mise en danger plutôt destructrice ou alors verrouillante de certains points de vue. Mais ça, il faudrait vraiment... prendre chaque champ, regarder en littérature ce qu'on peut considérer comme anormal ou excentrique. Donc c'est compliqué d'écraser les périodes, les courants. Donc là, je pense qu'on ne peut pas faire de comparaison terme à terme, mais on peut avoir cette première approche, entre guillemets, naïve, de dire est-ce que ces termes sont synonymes, comment est-ce qu'on les emploie. Mais là, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire des recherches après plus ciblées, et puis de ne pas tout noyer qui sera un peu dangereux.
Pour le coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, au cours de cette première journée, sont apparus de nombreux termes tels que transgression, écart, pas de côté, bizarrerie, folie, extravagance aussi, l'extravagance cet après-midi. Et c'est vrai qu'il était, je pensais aussi qu'il était important justement d'essayer de trouver une définition, comment définir l'étrangeté par rapport à l'anormalité, comment définir la subversion par rapport à l'anormalité, à l'excentricité.
Voilà. Mais je pense que ces trois plans que j'ai donnés au début, vraiment descriptifs, prescriptifs et perceptifs, fonctionnent avec tous les termes, avec l'excentricité aussi. Puisqu'on a entendu dans les conférences cet après-midi, il y a eu la question de la mise en danger, il y a eu la question aussi de la reconnaissance des autres, il y a eu la question de l'expression de la voix. Donc on arrive, et puis tout tourne autour de la construction identitaire quand même, et puis du non-figement de la notion d'identité. Moi je pense qu'il faudrait aussi jeter le terme d'identité au singulier, et puis en tout cas d'avoir une conception évolutive de l'identité. Mais je pense que c'est ça le point commun qui serait au cœur de tout, c'est qu'on a une réflexion sur les déstabilisations identitaires et sur l'expression de nos voix.
Nous allons vous remercier, Stéphanie Pahut, pour votre intervention, pour votre conférence sur la normalité. Nous remercions aussi le public. Nous vous remercions pour votre présence. Merci beaucoup.